Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Bel âge, 4 temps et Québec oiseau. Au programme, du soleil au menu. Ensemble, rêvons le jardin botanique. Et l'épervier de Cooper, un rapace dans la ville. Bonne écoute.
Du soleil au menu. Un texte de Isabelle Huot, docteur en nutrition paru dans le magazine Bel Âge. Manger local, c'est idéal. Mais à cette période de l'année où les fruits du Québec se font rares, on a tout à gagner à croquer dans des aliments exotiques, tant pour leur bon goût que pour leur apport vitaminé. En voici 7 à savourer. 1. La goyave. Ce petit joyau est cultivé au Mexique, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et au nord de l'Amérique du Sud. Une portion de 125 ml, une demi-tasse de goyave, fournit 199 mg de vitamine C, ce qui comble plus de 200% des besoins quotidiens. Puisque la vitamine C joue un rôle important dans le maintien des fonctions immunitaires, la saison froide est le moment idéal pour intégrer ce fruit au menu. À consommer cru ou à incorporer dans des recettes sucrées ou salées. 2. La papaye. Originaire du Mexique, la papaye enjolive les salades de fruits grâce à sa chair orangée. Cet aliment a également une excellente valeur nutritive. Sa teneur en vitamine C, 45 mg, et en vitamine A, 203 unités de bêta-carotène pour 125 ml, une demi-tasse, en fait un excellent choix en guise de dessert ou de collation. Fait inusité, la papaïne, une enzyme, a comme propriété d'attendrir la viande. Intégrer du jus de papaye dans une marinade est donc tout indiqué. 3. Le kiwi jaune. Cette variété de kiwi a été créée naturellement par des chercheurs. Elle n'est en aucun cas un organisme génétiquement modifié. Produit le plus souvent en Nouvelle-Zélande, en Italie et en Chine, ce fruit se trouve en abondance dans les étals des supermarchés et c'est tant mieux, car il est riche en vitamine C. À l'unité, il fournit 91 mg de vitamine C, comblant entièrement les besoins quotidiens des femmes et des hommes. Le kiwi jaune contient 30% plus de vitamine C que le vert. Du kiwi dans un pudding au chia ou dans un gruau du lendemain ajoute une touche de fraîcheur vitaminée. Bon à savoir, 2 essais cliniques ont démontré que manger 2 kiwis avant d'aller au lit favoriserait l'endormissement. 4. Le kaki. Aussi appelé plaquemine, le kaki est cultivé en Chine, en Israël, aux États-Unis et au Japon, dont il est le fruit national. Il est offert en de nombreuses variétés. Le nom apparaît habituellement sur l'étiquette. Son goût et sa chair peuvent être très différents. Sauf le fuyu, qui est à son meilleur quand la chair est ferme, la plupart des kakis, dont les achias, se mangent quand ils sont très mûrs et que leur peau se fissure. Ce fruit fournit 813 unités de bêta-carotène et 33 mg de vitamine C par portion de 2 fruits, 50 g. En cuisine, le kaki agrémente les salades avec épinards et amandes grillées, un délice, et est savoureux en chutney pour accompagner la volaille ainsi que les fruits de mer. 5. Le rambutan. Ce petit fruit originaire d'Asie ressemble à un litchi poilu. On les consomme d'ailleurs de la même façon. Son goût est similaire à ce dernier et à celui du raisin. Une portion de 125 ml, une demi-tasse, contient 3,9 mg de vitamine C et 33 mg de potassium. Le rambutan est à maturité lorsqu'il est bien rouge. S'il est vert, il doit mûrir davantage. Pour accéder à la chair, il faut retirer la coque puis ôter le noyau central. À manger seul ou dans une salade de fruits. 6. Le pitaya. Il s'agit du fruit d'un cactus issu du Mexique. Sa peau rose semble être recouverte d'écailles aux pointes vertes, ce qui explique son autre nom, le fruit du dragon. Sa chair est blanche ou rosée et contient de petites graines noires. Elle est juteuse et sa saveur est douce et sucrée. Une portion de 100 grammes, environ un fruit, fournit 2,5 mg de vitamine C et 2,9 g de fibres. Il se consomme comme un kiwi. Il faut le couper en deux, puis prélever la chair à l'aide d'une cuillère. 7. Le tamario rouge. Ce fruit à chair orangée et à graines noires, aussi appelé tomate en arbre, ressemble à une tomate raisin. Il est produit principalement en Colombie, en Équateur et en Nouvelle-Zélande. Il est riche en vitamine C, on compte environ 19 mg dans un tamario rouge de 60 g. Il se consomme cru, de la même façon qu'un kiwi, ou cuit, sous forme de chutney ou de confiture. Son goût acidulé, légèrement sucré, est étonnant. Mollo sur le jus. Les jus de fruits qu'on extrait soi-même sont souvent plus intéressants que ceux que l'on trouve dans les commerces. Pourquoi? D'abord, car ils sont généralement servis fraîchement pressés, mais aussi parce qu'ils conservent davantage de vitamines et de minéraux. Cela dit, même si les jus maison sont de meilleurs choix pour la santé que plusieurs options du commerce, ils demeurent une source importante de sucre et leur consommation devrait être limitée à 150 ml par jour. C'était « Du soleil au menu », un texte de Isabelle Huot, docteur en nutrition, paru dans le magazine Bel Âge. Ensemble, rêvons le jardin botanique. Un texte de Anne Charpentier, paru dans la revue Quatre Temps, à l'automne 2021. Les enjeux liés au changement climatique et à la perte de biodiversité nous poussent tous à l'action. Alors que son centenaire se profile à l'horizon, le Jardin botanique de Montréal actualise sa vision et s'ancre plus que jamais dans les aspirations actuelles de la société. Considéré comme l'un des 10 jardins botaniques les plus importants au monde, le Jardin botanique de Montréal, qui aura un siècle en 2031, se dotera bientôt d'un plan directeur, le premier de cette envergure depuis sa fondation. Le jardin a de formidables aspirations, notamment sur le plan écologique, et nous nous préparons à y répondre. Porté par une vision inspirante, ce document comportera, entre autres, des idées de projets sur l'expérience de visite et du site, ses aménagements, ainsi que sur son rôle dans la communauté, ainsi qu'à l'international. Élaborer un plan directeur est une entreprise colossale. Les défis du jardin sont en effet nombreux, et les voies qui l'apprécient multiples. Nous avons donc mené plusieurs projets de front. Le premier est notre démarche participative « Rêver le jardin botanique 2031 ». Cette approche m'était très chère, car une démarche collaborative avait été préconisée pour imaginer le nouvel insectarium dont j'ai eu le privilège d'être la directrice. Rêver le jardin botanique 2031 repose sur un vaste sondage mené auprès de citoyens à l'été 2020 et sur une série d'ateliers auxquels ont participé à la fois des citoyens et des représentants de la grande équipe du jardin et d'espace pour la vie, tous corps de métier confondus. La moisson, immense, a permis de dégager 7 orientations. 1. Leadership et exemplarité. Le jardin occupe une position privilégiée pour contribuer à la transition écologique. Il doit assumer son leadership en la matière et faire preuve d'exemplarité. Il doit également contribuer à faire évoluer les comportements et s'investir dans un projet de société viable. 2. Rôle des végétaux. Les plantes sont perçues comme des alliés naturels de la vie humaine, tant par leur esthétique que par les services écosystémiques qu'elles assurent. Le jardin botanique doit témoigner des technologies qui peuvent en émerger. 3. Caractère scientifique. La science apporte de la crédibilité et des assises solides à tout projet, quel que soit le domaine. Le jardin doit continuer d'être un modèle de recherche en biologie végétale et dans les champs d'expertise associés aux pratiques horticoles et aux phytotechnologies. 4. Expérience sensorielle. Le jardin doit répondre aux besoins d'immersion, de contemplation et de découverte de la nature. Il doit favoriser la reconnexion avec les végétaux en proposant des expériences axé sur le sensoriel et les motifs pour mettre en valeur les bienfaits de la nature et de sa beauté. 5. Expertise au service des citoyens. Le jardin doit mettre son expertise de recherche et son savoir-faire non seulement au service des citoyens, mais aussi auprès de groupes ayant des intérêts communs et à l'international. 6. Implication citoyenne. En plus d'impliquer les citoyens et de leur permettre d'être des acteurs de la transition, le jardin doit répondre à leurs préoccupations et les intégrer davantage à son fonctionnement. 7. Importance du lien avec la nature. Le lien avec la nature doit transcender toutes les actions du jardin botanique. Le jardin botanique en transition. En parallèle, plusieurs études ont été lancées. Il s'agit par exemple de documenter la valeur patrimoniale de l'institution, de mieux prendre en compte la faune présente au jardin ou encore de comprendre les mouvements de l'eau et les pertes dans nos étangs et nos ruisseaux. On souhaite aussi connaître les parcours de visite favoris et la mobilité opérationnelle. Enfin, il est indispensable de réfléchir au futur de nos collections de serres et des jardins extérieurs, notamment en ce qui concerne leur adaptation au changement climatique. Car, bien que notre jardin botanique soit exceptionnel, il fait face à quelques enjeux. Plusieurs infrastructures sont par exemple désuètes et nécessitent des travaux importants. Le bâtiment Marie-Victorin, dont l'architecture Art déco est unique à Montréal, fera l'objet de travaux en 2022-2023. Nos serres de conservation et d'exposition ont besoin de rénovations très importantes pour demeurer l'oasis de biodiversité tropicale si chère aux Montréalais. Un bilan moyen des émissions de gaz à effet de serre, GES, d'Espace pour la vie 2016-2018, a démontré que la consommation de gaz naturel pour chauffer les bâtiments et les serres du jardin botanique constitue la principale source d'émissions de GES d'Espace pour la vie, toutes institutions confondues. Le jardin consomme aussi une grande quantité d'eau potable, tant pour assurer l'arrosage que pour compenser les pertes d'eau dues à l'évapotranspiration ou aux fuites des divers bassins et étangs. De plus, le jardin a été conçu à une époque où l'automobile occupait une place importante. Les voies de circulation principales avaient été pensées en fonction de la circulation automobile à l'intérieur du jardin. Les choses ont bien changé depuis. Pourtant, La vision des fondateurs, le frère Marie-Victorin et son architecte paysagiste principal, Henry Tusher, résonne encore aujourd'hui comme s'ils avaient su prédire l'avenir. Citation. Avec la concentration grandissante de la population dans les grandes villes et l'éloignement de la nature que cela entraîne, il me semble que le jardin botanique de l'avenir a une grave tâche à accomplir en aidant le citadin déraciné à retrouver ou à conserver le lien salutaire avec la nature dont, après tout, fait partie l'homme. Fin de citation. Programme d'un jardin botanique idéal publié en 1940, Henry Tusher, directeur des services techniques, concepteur des plans et aménagements du jardin botanique dès 1931. Dans les années 1930, il n'existait pas de données pour démontrer les bienfaits de la nature sur l'être humain. Des milliers d'études scientifiques ont depuis prouvé que la nature contribue à une meilleure santé physique et psychologique. Les jardins botaniques, avec leur nature admirablement mise en scène, sont bien placés pour répondre à cette quête de bien-être. Nous espérons déposer en 2022 le plan directeur du jardin botanique et les principaux projets qui en définissent les contours. Une autre démarche de consultation permettra aux citoyens d'exprimer leurs préférences et leurs priorités, car le Jardin botanique de Montréal appartient à la collectivité. Je souhaite ardemment que son 100e anniversaire soit l'occasion de sa remise en beauté, afin que sa visite nous transporte en tout lieu, mais aussi que l'institution incarne la transition écologique pour les générations futures. C'était « Ensemble rêvons le jardin botanique », un texte de Anne Charpentier, paru à l'automne 2021 dans la revue Quatre Temps.
L'épervier de Cooper, un rapace dans la ville, un texte de Philippe Blain, paru au printemps 2023, volume 34, numéro 3, du magazine Québec Oiseau. Typiquement forestier, l'épervier de Cooper est de plus en plus présent dans nos villes à la faveur d'une spectaculaire remontée de ses effectifs. Fièrement dressé sur son perchoir, bien en vue, l'épervier de Cooper semble nous toiser de son regard farouche. Il ne se cache de personne et n'a peur de rien. Sans doute l'avez-vous reconnu en train de rôder dans votre quartier, que vous habitiez Brossard ou Sainte-Foy, Gatineau ou même le plateau Mont-Royal. L'épervier de Cooper s'est installé à demeure dans les villes du sud du Québec, où ses apparitions répétées n'émeuvent plus grand monde. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Dans le premier atlas des oiseaux nicheurs du Québec, paru il y a près de 30 ans, la rubrique sur l'espèce commence par cet énoncé sans équivoque. L'épervier de Cooper est un oiseau migrateur rare dans le sud du Québec. L'article souligne de surcroît que l'espèce est classée comme vulnérable dans la province. Voici d'ailleurs un constat parlant. Selon les données compilées par les participants à cet atlas au cours des 6 années de terrain, 1984-1989, la nidification de ce rapace n'a été confirmée que 6 fois, soit une fois par année en moyenne. À l'époque, son aire de distribution québécoise se limitait surtout à la région de Montréal, à l'Outaouais et à l'Estrie. Depuis 30 ans, l'espèce a progressé plus loin au nord et à l'est. Jusque dans les années 1960, les rapaces, tant diurnes que nocturnes, ont été persécutés à peu près partout en Occident. Oiseaux de malheur, soumis à la vindicte populaire, quelle que soit leur taille et leurs habitudes alimentaires, les buses, les éperviers et les faucons étaient tous chassés avec un égal acharnement dans nos campagnes. L'épervier de Cooper avait particulièrement mauvaise presse, car il était de taille à s'attaquer à la sauvagine et aux oiseaux de basse-cour. L'article sur l'espèce dans les oiseaux de l'Est du Canada de P.A. Taverner, l'un des premiers ouvrages d'ornithologie publiés par le gouvernement fédéral, se révèle particulièrement sévère à son endroit. C'est une espèce plus malfaisante que l'épervier brun, puisque sa forte taille lui donne plus de puissance et de moyens de nuire. L'épervier de Cooper a souffert au premier chef de cette persécution dans toute l'Amérique du Nord. En outre, pendant longtemps, sa fécondité a été compromise par l'usage du DDT, un pesticide organochloré utilisé à grande échelle durant les décennies de l'après-guerre et heureusement banni aujourd'hui. Depuis, l'attitude des humains envers les oiseaux de proie a bien changé, chez nous comme ailleurs, et la cohabitation avec eux est devenue plus facile. Les rapaces ont su, de plus, gagner le respect et la considération des amateurs d'oiseaux qui apprécient leur vol impressionnant et comprennent leur rôle dans la chaîne alimentaire. La nature a horreur du vide. Cette maxime attribuée à Aristote prend tout son sens pour expliquer le rebond phénoménal de cet épervier. Nos villes, grandes et petites, regorgent de vie. Elles font davantage place aux arbres qu'autrefois et se sont en grande partie débarrassées de la fumée délétère des usines. Elles accueillent aujourd'hui ratons laveurs et moufettes, écureuils gris, dodus et surabondants, hordes de pigeons et d'étourneaux, mésanges et citelles à foison autour des mangeoires. Tout cela constitue une biomasse considérable, à défaut d'offrir une grande diversité. De quoi attirer de nombreux rapaces en quête de proies faciles. L'épervier de Cooper, qui a appris à manœuvrer entre les arbres dans les forêts encombrées, à la poursuite d'oiseaux souvent rapides et agiles, sait très bien se débrouiller à la chasse dans nos villes en évitant les obstacles que constitue l'infinité de structures érigées par l'homme. Il y a peu, l'épervier de Cooper nichait presque exclusivement, au Québec, dans les forêts méridionales feuillues les plus denses. Il s'accommode aujourd'hui des petits boisés oubliés par l'étalement urbain, des grands espaces verts arborés, voire des quartiers de banlieue. Proie et méthode de chasse, cœur sensible s'abstenir. Dans son menu, l'épervier de Cooper manifeste une nette préférence pour les passereaux de taille moyenne et les colombidés aux dépens des mammifères. Les tourterelles, les étourneaux, les merles, les geais et les cardinaux figurent parmi ses espèces de prédilection. Perché à mi-hauteur dans un arbre ou dissimulé par un immeuble, il vient surprendre sa proie de son vol rapide, souvent en rase-motte. Arrivé à quelques mètres, avant de fondre sur elle, il cesse de battre des ailes et ramène rapidement ses pattes à l'horizontale à l'avant du corps. Au moment de frapper, il freine brusquement de ses ailes. Il saisit la proie de ses deux serres, relâche un peu sa prise, puis la reprend encore plus fortement. S'il se trouve à proximité de l'eau, l'épervier va souvent noyer sa capture en l'immergeant jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Perché pour prendre son repas, l'épervier de Cooper tient sa proie fermement dans ses serres et la dévore généralement selon un rituel précis. D'abord la tête, puis les viscères et enfin les muscles. Migration. L'aire de distribution de l'épervier de Cooper s'étend du sud du Canada, d'un océan à l'autre, jusque dans la cordillère de l'ouest du Mexique. Les individus nichant dans la partie nord de l'aire sont généralement migrateurs et, à l'automne, se déplacent vers le sud sur des distances relativement modestes. Dans l'est des États-Unis, la migration a lieu le jour en suivant notamment la crête des Appalaches où les courants ascendants assurent aux oiseaux des conditions de vol favorables. Certains lieux de rassemblement sont bien connus, comme Hawk Mountain en Pennsylvanie. Au Québec, une partie de la population passe l'hiver dans les villes et dans les campagnes où elle est assurée de trouver une nourriture abondante malgré les rigueurs du climat. Ce phénomène est appelé à s'accentuer avec le réchauffement planétaire. Épilogue. Devant les bouleversements inquiétants et complexes imposés par l'homme à la nature, il est facile de céder au pessimisme. Cependant, force est de constater que tout n'est pas noir dans le monde animal. Certaines espèces ont su tirer leur épingle du jeu, profitant des milieux transformés par les humains avec une foudroyante rapidité et une remarquable capacité d'adaptation. L'épervier de Cooper en est un exemple particulièrement éloquent. C'était « L'épervier de Cooper, un rapace dans la ville », un texte de Philippe Blain, paru au printemps 2023, volume 34, numéro 3, du magazine Québec Oiseau.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.